Podcast, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, enseignant de philosophie. Avec Laurent, nous parlerons des suites de la perte du triple A, du libre-échange et du protectionnisme, et avec Guy, nous échangerons sur le mouvement social et l'austérité. Et avec Philippe, qui nous donnera, lui, un éclairage philosophique de la notion d'identité. Mais pour commencer, une demi-heure de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1097. Jean au micro, salut.
Le dimanche autour de l'église, avec sous les yeux des valises, arrivent les desperados. La Seat Ibiza chargée de n'importe quoi, des objets que t'en veux pas comme cadeau. Sont les rois du bar atteint dès le matin qui vous arrachent de tympans, ou bien des roumains aux dents jaunes ou des gitans de Carcassonne, ça dépend. Et chacun dit à sa façon, au soleil des contrefaçons, une place jusqu'à midi. Mais ils font gaffe aux réguliers qui eux sont servis les premiers, d'ailleurs ils arrivent en Audi.
Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, ou qui n'est pas l'interprète.
Y'a des maigres qu'on dirait qu'ils font ramadan toute l'année, moi j'appelle le stade Cador. Ils te vendent du patrimoine, des trucs qu'on jamais vu, la douane et des cigarettes d'Andorre. Y'a des filles de tous les quartiers couvertes de la tête aux pieds, même quand c'est la canicule. Vendent des stringos, oui comment, elles disent des sous-vêtements, elles trouvent pas ça ridicule. Devant dans ce qu'elles porteront pas, elles s'ouvriront pas le compas. Car suffit pas d'être un garçon, encore faut-il être du moule. De la grande secte, ce moule, je la connais bien la chanson.
Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, ou qui dépasse l'interprète.
Dans l'église, le vieux gratin vous chante la messe en latin. Dehors, personne n'est contre, sauf les Sénégalais dits gascons, qui parlent avec le mot con, voudraient qu'on lâche un temps Wolof. Les Roumaines, même l'air vague, te font regretter une bague. Il faut qu'elles fassent de l'argent, sinon on les astique au détergent. Moi, des jours comme ce jour-là, je me dis, je me sens chez moi, parce que c'est une journée banale. Ce jour-là, je me sens pas seul. Putain, qu'est-ce qu'elle prend dans sa gueule, l'identité nationale.
Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, ou qui dépasse l'interprète. Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi. C'est un peu la détresse dans le creux d'un arbre. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère si à moi t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, 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 la tristitude. La tristitude, la tristitude. Te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, la tristitude. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude plus rien. En tout cas c'est la tristitude, la tristitude, la tristitude.
Laurent, qui vient d'arriver dans le studio, me disait « mais c'est Claude François ». Non, c'est Oldelaf, c'est-à-dire Olivier de la Fosse. La tristitude est juste auparavant. C'était Zebda, extrait de leur nouvel album « Second tour, autour de l'église ». John Lennon, « Well, well, well ».
masculin.
She looks so beautiful, I could eat her.
Well, well, well.
Yeah!
John Lennon en 1970, Annie El Khatib 2011.
Come in, let's go. Yeah, yeah. Here we go. Climb on my roof. Why don't you? You win!
Khatib, vous êtes à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9, magazine Tumulte, et dans 5 minutes, le journal de Tumulte avec Guy, Laurent et Philippe. Musique avec Other Lies, extrait de leur dernier album Tamer Animals, 412.
Searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I did hit the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today. All spouting hymns and balls and rhymes. Forever talking when it ain't so kind. But
Satan's affliction. So far away, but it feels like forever on your own. When your mountains are fixing, all nudging the ghosts from the skull, in a night without sleep, vibration comes first to the heart and last to the feet, spouting hymns and balls and and forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your mountains are fiction.
Journal de tumulte. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, Philippe Ledoussal, enseignant de philosophie, et Guy, notre syndicaliste. Avec Laurent, nous parlerons des suites de la perte du triple A et puis du libre-échange et le protectionnisme. Avec Guy, nous échangerons sur le mouvement social et l'austérité. Et avec Philippe, nous aurons un éclairage philosophique de la notion d'identité. Pour commencer, la perte du triple A, Laurent, plutôt les suites, parce qu'on en a abondamment parlé, c'est un phénomène très médiatisé.
Donc vous voulez encore en reparler, quoi. Oui, ça fait effectivement une huitaine de jours que nous avons perdu notre précieuse note, comme disent l'ensemble des commentateurs et nos ministres. C'est-à-dire que la note attribuée par l'agence Standard & Poor's sur la qualité de la dette française a été baissée de triple A à AA+, si je ne me trompe pas. Ce qui fait, M. Fillon a raison de le dire, ce qui fait toujours de la dette française un bon placement de père de famille. Et donc, ce qui est quand même très curieux dans cette affaire, c'est qu'on nous a quand même fait vivre quasiment depuis un an et demi au rythme palpitant de cette dégradation probable des marchés financiers qu'il fallait à tout prix éviter. Deux plans de rigueur ont tout de même été adoptés sous cette menace pour apaiser le courroux des marchés. Et puis, le jour où précisément cette dette est dégradée, on entend tous nos gouvernants et nos dirigeants économiques nous dire « mais pas de panique, il ne s'est rien passé, ça ne va rien changer, de toute façon les marchés financiers avaient anticipé cette chose-là », ce qui est en partie vrai. Les marchés financiers avaient bien entendu anticipé cette chose-là, mais toujours est-il que ça n'enlève pas les 1 an et demi de politique économique qu'on nous a bien fait vivre au rythme de cette peur-panique, enfin au diapason de cette peur-panique de la dégradation. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que, curieusement, cette dégradation n'a absolument rien produit sur l'augmentation des taux d'intérêt de la dette française. Au contraire même, alors on ne peut pas l'attribuer évidemment à la perte du triple A, mais pendant que la note baissait, l'État français a pu refinancer une tranche de sa dette à des taux d'intérêt historiquement inouïs, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, à un taux inférieur à 2% sur des émissions de titres à moyen terme, je ne sais plus si c'est 2 ou 5 ans, mais ce qui met quasiment l'émission de la dette publique à un point inférieur à ce qui est coté sur les marchés d'occasion, ce qui pose d'ailleurs des petits problèmes d'explication, comment ça se fait qu'il peut y avoir un écart entre le taux d'intérêt sur l'émission de la dette et le taux d'intérêt auquel se traite la dette sur les titres d'occasion, mais qui fondamentalement sont équivalents, c'est la même signature qui doit rembourser. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc il n'y a pas eu de tremblement de terre, et même ce qu'on doit expliquer aujourd'hui, c'est comment il se fait que la France n'a jamais emprunté à des taux d'intérêt aussi bas. Alors peut-être que le gouvernement aurait beau jeu de dire « Ah bah justement, c'est le résultat de nos plans de rigueur, nous avons fait assaut de rigueur et donc nous avons rassuré les marchés financiers et maintenant les banques nous prêtent à un taux très bas ». Alors l'explication que je propose, il y a quelques personnes qui sont prêtes à y souscrire, c'est la suivante. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'intervalle, la Banque Centrale Européenne s'est quand même aperçue qu'on ne pouvait pas ne rien faire, et qu'il fallait tout de même essayer d'envoyer un signal fort pour essayer d'apaiser les tensions sur les marchés financiers. Et comme la Banque Centrale Européenne se refuse, alors que rien ne lui interdit, mais se refuse à racheter directement des dettes publiques sur les marchés financiers pour essayer de détendre les taux d'intérêt sur les dettes, eh bien, Mario Draghi a trouvé une forme d'astuce. Et peut-être que c'est ce qui pourra un jour signer un banquier d'exception, hein, on en cherche. Il a trouvé une astuce, il a dit bah, on va prêter 500 milliards d'euros aux banques au taux d'intérêt de 1% pendant 3 ans. Alors bon, évidemment, quand vous êtes à la place des États, vous pouvez vous dire bah, comment se fait-il que des institutions privées peuvent trouver des liquidités à si bas prix sur des échéances aussi longues. Mais finalement, ces banques qui, dans un premier temps, avaient thésaurisé ces prêts de la Banque Centrale en les laissant dormir sur leur compte à la Banque Centrale, se sont quand même demandé ce qu'elles pouvaient faire d'utile avec ça, d'utile et de lucratif tout de même, parce que ces prêts leur coûtent quand même 1% par an. Et donc, on peut penser que les banques commerciales ont pour partie utilisé ces liquidités toutes fraîches pour racheter de la dette publique à l'émission. Et elles étaient même tellement pressées de placer cet argent qui lui coûtait quand même 1% par an à des taux plus rentables qu'elles ont été prêtes, ces banques, à accepter des taux d'intérêt très faibles sur les nouvelles émissions de la dette publique. Alors voilà ce qui s'est passé. C'est pas inintéressant parce que, encore une fois, on s'aperçoit que ceux qui disaient depuis longtemps bah, « il faut monétiser la dette publique », évidemment, on les prenait pour encore de furieux hérétiques ou iconoclastes, mais grosso modo, indirectement, c'est ce que vient de faire la Banque Centrale Européenne, en encourageant les banques à utiliser cet argent tout frais, ces liquidités énormes, hein, 500 milliards d'euros émis en moins de 3 heures, hein, en encourageant les banques à utiliser cet argent pour refinancer en partie les dettes publiques.
Alors comment se fait-il que la France, qui a bénéficié de cette possibilité d'emprunt à un faible taux, comment se fait-il que ce phénomène ne se déroule pas pour les autres pays, par exemple l'Italie et puis évidemment la Grèce, qui emprunte à des taux encore très élevés?
Oui, parce que tout de même le marché est sélectif. Le marché est sélectif. Alors, mais ça fait partie du tableau. Parce que finalement, certains pays très endettés, comme les États-Unis, l'Angleterre, la France, bénéficient de taux d'intérêt historiquement très très bas. Hein, très très bas. Alors, donc, même ça pose problème, enfin pose question.
Parce que leur banque centrale.
Alors,
prête.
Alors, pour ces pays-là, parce qu'on sait que si jamais il y avait véritablement tempête sur les taux d'intérêt, les banques centrales seraient prêtes à racheter des wagons de titres sur les marchés financiers. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Mais il y a quand même une autre raison qu'on ne voit jamais donner et qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'il faut bien que l'épargne se place quelque part. Bon. C'est-à-dire que les fortunes financières qui sont constituées dans le monde cherchent de toute façon des placements qui rapportent plus que zéro. Bon. Ça veut dire que si tous ceux qui avaient de la fortune plaçaient cette fortune sous forme liquide dans des dépôts auprès des banques, bah, ça leur rapporterait rien du tout. Bon. Donc plutôt que d'avoir des placements qui rapportent rien du tout, on cherche quand même ce qui peut rapporter un tout petit peu plus, 1,5%, 2% ou 3%. Et donc il y a une espèce de sélectivité accrue des placeurs ou de leur mandataire pour essayer de trouver les sources de placement qui sont encore à peu près sûres, quitte à ce que ça ne rapporte quasiment rien. On est maintenant sur certaines échéances à des taux d'intérêt qui sont en dessous de l'inflation. Et il y a même eu, je crois que c'est une émission, je ne sais plus si c'est une émission de la Bundesbank ou de la Banque d'Angleterre, à taux d'intérêt négatif.
Intérêt négatif, ça veut dire quoi ça?
Eh bien ça veut dire que les prêteurs ont été prêts à acheter un titre plus cher que ce que sera sa valeur de remboursement par la banque.
Alors. Attends. Vous pigez les autres, là?
C'est la loi du marché, genre.
Non, mais par exemple, j'emprunte pour acheter une voiture.
Bon, marché financier.
J'emprunte 10 000 euros à un taux négatif. Ça veut dire que je fais quoi quand je rembourse?
Tu en rembourses moins que 10 000 euros.
Ah oui, d'accord. Tu me prêtes 10 000 et je te rembourse 8 000.
Voilà.
Donc, tu as intérêt. Vas-y, Jean.
C'est vachement bien, ça.
Vas-y, je suis prêt.
Alors, achète ta bagnole, là, genre.
Alors, pourquoi il y a des prêteurs qui ont été prêts à faire ça? J'en sais rien du tout.
La Grèce, peut-être.
J'ai pas d'explication, mais ça s'est fait. Alors je reviendrai peut-être la fois prochaine avec l'explication. Ça veut dire quand même que, alors c'est normal, hein, si on veut mettre de l'argent de côté, on peut accepter un taux d'intérêt négatif. Déjà, on peut accepter un taux d'intérêt inférieur à l'inflation, hein, parce qu'un taux inférieur à l'inflation, c'est déjà mieux qu'un taux zéro. Bon. Mais pire, on peut aussi accepter un taux inférieur à zéro, parce que quand on veut s'acheter un bien qui coûtera 30 000 euros dans 5 ans, ben on a quand même besoin de mettre de l'argent de côté. Et même si en face, quelqu'un est prêt à vous l'emprunter en disant « oui, mais je vous en prends 5% tous les ans », on peut tout à fait disposer à le faire quand même.
Non, mais c'est peut-être que pour un capitaliste, la pilule passe mieux de dire... je fais un prêt à taux négatif plutôt que de payer plus d'impôts, par exemple. Ben, c'est une manière de donner de l'argent, en fin de compte, quand même.
Il faudra les voir. Ouais. Il faudra les voir.
Parce que là, on reste dans la loi. Hein, la loi, moi, c'est ce que j'ai compris de ton intervention. Hein, la loi qui gouverne, qui nous gouverne, la loi des marchés financiers, quoi.
Ouais, tout à fait. On n'est pas du tout sorti.
Ouais. Alors, sur Arras. La règle du triple A, tant que l'andouillette d'Arras a toujours le triple A, bon, il n'y a pas de problème, hein, Jean. Mais moi, ce que je voulais quand même dire par rapport à ça, vous avez débuté, vous avez commencé en disant on en a beaucoup parlé, etc. Alors, il y a eu un petit suspense, hein, bon, ça va être annoncé le lendemain, etc. On en a parlé un peu, mais c'est vite retombé, je trouve. On n'en parle plus d'ailleurs. On n'en parle plus du tout. C'était quelque part catastrophique, prévision catastrophique. Pour Sarkozy, c'était la fin de tout, etc. Bon, avec Sarkozy, on a l'habitude, hein, avec toutes les annonces qui ont pu être faites. Mais là, on n'en parle plus. Puis, à t'écouter, en fin de compte, ça ne change rien.
Non, pour un pays comme la France, pour l'instant, ça ne change rien. Mais ce qui est, il faut le dire en toute honnêteté... C'est maintenant qu'on voit, entre guillemets, la réaction des marchés, qu'on sait qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la veille de la dégradation de la note, la réaction des marchés financiers est imprévisible, et c'est justement ça le problème.
Et quelque part, est-ce que c'est pas un coup porté aux agences de notation, une forme de décrédibilisation de ces agences? Moi, j'ai entendu une intervention sur une radio, je ne sais plus quelle radio, qui disait que dans son... Alors, c'est peut-être pas pour la note de la France, mais c'est pour la note des États-Unis. Donc, il y a des calculs savants, quand même. Hein. Et il y avait une erreur de 100 millions de dollars, quoi, dans leur... Et donc,
sur le montant de la dette.
Ouais, c'est ça, enfin dans leurs calculs, quoi.
Hein, sur une dette de 14 000 milliards de dollars, on peut faire une erreur.
Voilà, mais bon, enfin, toi quand t'entends ça, tu te dis, bon, les mecs, ils savent pas compter quand même, 100 millions, même si c'est 14 milliards, c'est quand même pas négligeable.
Non, tout à fait, non, mais en plus, sur des dettes qui augmentent de jour en jour, on peut avoir un petit décalage horaire quand on calcule le montant de la dette. Mais cette affaire prouve quand même que c'est bien la dictature des marchés financiers et que c'est une dictature folle. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi bien assister au scénario inverse. Tout le monde se serait polarisé sur la dégradation de cette note. Dans les bruits de couloir des grandes institutions financières, on aurait dit « Ah ben ça y est, cette fois-ci, c'est la France qui est attaquée quand même, on est au cœur du réacteur ». On aurait pu avoir ce genre de discours. On est au cœur du réacteur. Et si la France est attaquée, ça ne pourra pas ne pas avoir de répercussions sur la dette allemande, parce que finalement, ils sont caution solidaire sur l'ensemble des prêts de secours aux autres pays. Donc, bon, on aurait pu greffer tout à fait une analyse qui serait partie exactement dans le sens inverse, polarisant les conventions et les anticipations sur une augmentation des taux d'intérêt sur la dette publique. Et une fois que tout le monde a de ses anticipations, elles sont autoréalisatrices. Hein. Si tout le monde se dit, bon bah, demain il va y avoir des ventes massives de titres de dette française par l'ensemble des institutions financières mondiales, tout le monde se met à vendre. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, avec la lucidité rétrospective, « Oh bah vous voyez, ça avait été anticipé par les marchés, finalement il ne s'est rien passé », ça aurait pu être exactement l'inverse et on aurait eu des commentaires radicalement différents.
Alors au bout du compte, Laurent, est-ce que la crise est toujours là? Parce qu'on finalement on se dit « il ne s'est rien passé », c'est ce que dit Sarkozy, et ce que dit aussi Baroin, il ne s'est rien passé depuis la perte du triple A, il ne s'est rien passé, et on parle de remontée de la croissance en Allemagne et en France.
Ouais,
est-ce que la crise est terminée?
Ah non, alors moi je ne crois pas du tout, et de toute façon, pour une fois, les dirigeants européens se sont un petit peu assagis, et ne sont pas en train de nous faire une musique cigane sur ce thème-là. Ils sont bien conscients du fait que ça peut redémarrer aussi sec, en particulier parce qu'il y a déjà un point de fixation qui n'est toujours pas purgé, c'est la question de la Grèce. On est quasiment toujours plus ou moins en rupture de négociation entre les banques privées qui doivent accepter des diminutions de créances sur la Grèce, hein, qui doivent accepter 50% de renoncement à leurs créances. Mais en contrepartie, les banques essaient de négocier des taux d'intérêt trop élevés sur les prochaines créances, celles qui seront rabattues de moitié. Donc les négociations restent tendues à cet endroit-là. Le FMI, Christine Lagarde, vient de dire que si on n'avait pas un rabais plus important des banques privées, peut-être 60%, et puis surtout pas un taux d'intérêt supérieur à 4%, et ben, si on n'avait pas ces conditions-là, on n'est pas sûr que la Grèce pourrait revenir à une dette raisonnable aux horizons de 2020, type 120% de son PIB. L'Allemagne ne veut pas mettre plus cher dans les fonds de soutien, donc là l'équation n'est toujours pas bouclée, hein. On n'est pas sûr. Et donc le processus qui ensuite fait tache d'huile sur la dette espagnole, la dette italienne, cette mèche-là, elle est toujours allumée.
D'accord. Alors bon, cette situation, finalement, elle s'est quand même pas mal imposée dans le débat politique. Et bon, il faut dire qu'on a assisté à une vague de licenciements, de fermetures d'entreprises, de délocalisations, etc. Et à cette occasion, beaucoup de politiques parlent de produire français, de consommer français. À nouveau, le débat sur libre-échange et protectionnisme reparaît. Et on peut dire que c'est un débat qui repose sur quelque chose. Alors, cette question du protectionnisme.
Bon, moi, j'observe que le débat, effectivement, est reparti. Mais je n'ai entendu aucune proposition concrète. C'est-à-dire, on a simplement, encore une fois, là, des petits morceaux d'accordéon ou de violon sur le thème consommer français, réimplanter la France.
Produire français.
Produire français, réindustrialiser, mais on voit se dessiner aucune mesure concrète. Absolument aucune. Et je crois que...
C'est l'identité française, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Non, mais moi, par rapport à ça, j'ai entendu un truc, peut-être vous l'avez entendu. C'est quoi produire, consommer français? Par exemple, est-ce que j'achète une Toyota qui est fabriquée à Valenciennes? Est-ce que ça, c'est consommer, produire français ou pas?
Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Sarkozy a raison quand même de ce point de vue-là. Le problème, ce n'est pas d'acheter une marque qui a une consonance française. L'intérêt du point de vue économique, c'est d'acheter un produit qui a été fabriqué sur le territoire national, c'est-à-dire un produit qui a occasionné des versements de revenus sur le territoire national et de l'emploi sur le territoire national. Bon, c'est ça qui doit préoccuper un pays constitué politiquement, un pays ou une zone économique constituée politiquement. Mais je crois qu'on se fait... la plupart des opposants au libre-échange se font piéger dès le départ parce qu'ils ont peur de basculer dans le camp des affreux protectionnistes. Bon. Et d'une certaine manière, on comprend leur réticence parce que le protectionnisme, quand on l'entend comme réaction protectionniste au libre-échange, c'est un peu le compagnon de beuverie du libre-échange. C'est-à-dire, quand on a fait trop de libre-échange pendant 30 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu du massacre. La macroéconomie du pays est sans dessus-dessous, il y a des déséquilibres du commerce extérieur, les entreprises partent à l'étranger, il y a de la montée du chômage, et tout d'un coup, la réponse, c'est on ferme les frontières. Bon, évidemment, tout le monde a le souvenir de la deuxième phase de la crise de 1929 avec la montée du protectionnisme, qui a quand même été l'un des facteurs aggravants de la crise. Bon. Le problème n'est pas d'être protectionniste, c'est de ne pas être libre-échangiste et de se demander ce que c'est que le commerce international. Et moi, je crois que la question fondamentale pour s'y repérer, c'est dans le commerce international, qui échange avec qui? Et la réponse, ça doit être, ce sont des pays. Et donc, du point de vue de qui se juge l'avantage mutuel? Eh bien, l'avantage mutuel dans le commerce international doit se juger du point de vue des pays. Des pays échangent à condition que chacun y trouve son intérêt. Mais le libre-échange, c'est pas ça. Le libre-échange, c'est n'importe qui échange avec n'importe qui, et ça veut dire que la question de l'avantage mutuel est renvoyée au niveau de chaque agent microéconomique. Un ménage qui a intérêt à acheter un mixeur fabriqué en Chine, vas-y mon gars, c'est ton intérêt, fais-le. Une entreprise qui a intérêt à délocaliser une entreprise, enfin sa production dans des pays exotiques pour bénéficier des bas salaires, c'est ton intérêt, fais-le. C'est pas ça le commerce international. Le commerce international, ça doit être des échanges bilatéraux ou multilatéraux décidés sur la volonté politique des États. Est-ce que ce qu'on est en train de faire dans nos échanges avec la Chine intéresse globalement la France? Est-ce que ce qu'on est en train de faire dans nos échanges avec l'Allemagne intéresse globalement la France? Etc, etc, etc. Bon. Et donc, il faut reposer la question des échanges internationaux à partir des intérêts des différentes nations, en pensant que plus ou moins, si à ce niveau-là l'échange est volontaire, alors les logiques macroéconomiques seront coopératives.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous sommes en compagnie de Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, de Philippe Ledoussal, enseignant de philosophie, Et Guy, notre syndicaliste. Alors Guy, mouvement social et austérité.
Notre syndicaliste. Le micro, il est branché là ?
Bah, bien sûr. Hein.
Alors, c'est parce que tu m'as présenté comme syndicaliste que tu m'as mis le micro jaune, c'est ça ?
Voilà.
Voilà, bah, c'est malin. Oui, parce que pour les auditrices, les auditeurs, hein, les micros, ils ont chacun une couleur hein, pour pouvoir repérer les fils, etc. Et moi, ils m'ont mis le micro jaune. Bah, c'est malin. Alors, Philippe, c'est le noir, hein, pour situer quand même. Et Laurent, hein, qu'on vient d'entendre, lui, c'est le micro rouge.
D'accord. Alors Guy,
sommet social.
Sommet social, 17 janvier.
Bon, c'est
un peu décevant.
17 ou 18, tu insinues le doute dans mon esprit. Moi, j'aurais dit le. Bon. J'aurais dit le 18, non ?
On sent le syndicaliste.
C'est déjà du passé. Tu vois, déjà
il a l'habitude de négocier. Regardez-le, il cherche.
18 janvier. Non, mais
18
tu vois,
janvier.
Hein, donc, non, mais autant dire les choses telles qu'elles sont. Quoi, hein, donc, le sommet social pour l'emploi a eu lieu mercredi 18 janvier. C'était la semaine dernière. Bon, on est dans la suite logique hein, de ce qui a été dit. Et peut-être que si finalement on ne parle pas tant que ça du triple A, c'est qu'il y a d'autres chiffres qui sont, enfin il y a des chiffres qui sont sans doute bien plus préoccupants pour toute la population sur les chiffres du chômage, hein, puisque 2012 apparemment la barre des 10% va être dépassée, c'est quasiment sûr, on n'en est pas loin déjà à cette époque de l'année, 3 millions de chômeurs, la barre va aussi être franchie dans quelques mois. Apparemment 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, puisque bon, tous les inscrits à Pôle emploi n'ont pas le statut de chômeur. Pour la petite histoire, bon, ça vous l'avez entendu, hein, il y a un son qui a circulé. Nicolas Sarkozy, en 2007, avant son élection, disait il s'était engagé hein, sur le plein emploi et sur 5% de chômeurs à la fin de son quinquennat. Donc 2012, et donc à la question de savoir ce qu'il ferait s'il ne remplissait pas l'obligation de résultat qu'il s'était assigné, il répondait « Je dis aux Français, c'est un échec, j'ai échoué, et c'est aux Français d'en tirer les conséquences ». Bon, on verra ce que ça va donner en avril-mai prochain, en tout cas, une situation préoccupante, et un sommet social donc pour l'emploi annoncé, hein, dans une grande et habituelle stratégie de communication par le Sarkozy, le gouvernement. Alors peut-être déjà un mot sur la méthode. Sommet social, dans ce contexte-là, ce n'est pas un dialogue. Il n'y a pas d'échange. L'objectif, c'est ce que dit d'ailleurs Thibault de la CGT, c'est un affichage, hein, c'est une rencontre, et à la presse, etc. Et il y a quelques mesures, mesurettes ou mesures, comme vous voulez, hein, qui sont annoncées par le gouvernement, qui ne sont pas du tout discutées. Il a peut-être testé un petit peu la TVA sociale, mais vu le blocage des syndicats, il ne l'a pas sorti, mais en tout cas, il avait quelques mesures à annoncer. Et donc, ces mesures ont été annoncées, mais il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas d'échange social. On peut d'ailleurs se poser la question. Toutes les organisations n'étaient pas invitées, hein, que les cinq confédérations, hein, que traditionnellement on considère comme les cinq confédérations représentatives, la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC, manquent par exemple la FSU quand même, qui est la première fédération de fonctionnaires, manque l'UNSA, manque l'Union syndicale solidaire, les syndicats sud. Donc déjà on peut se poser une question par rapport à la réelle représentation sociale, hein, des représentants des salariés, des travailleurs. En tout cas donc une mise en scène qui est dénoncée par les organisations syndicales qui y participent. Hein, et on peut d'ailleurs se demander pourquoi elles y participent. Mais enfin bon, elles y sont allées. Et donc qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien encore une fois, donc un certain nombre de mesures, rien de vraiment nouveau. Pas non plus de bouleversement, pas non plus hein, d'engagement financier énorme. Donc grosso modo, hein, pour aller vite, je vais commencer par la simplification du chômage partiel. Bon, on pourra peut-être éventuellement en discuter. On est quand même... on a un gouvernement, on a un patronat qui n'arrête pas de dire les 35 heures c'est pas bon, etc. Et puis d'un autre côté, bah, on parle de on propose du chômage, faciliter le chômage partiel. Donc c'est bien que y a une question de la répartition du travail et donc il faut peut-être travailler moins pour faciliter l'accès à l'emploi de plus. Bon, enfin bref, donc il y a cette mesure. Exonération des charges patronales pour les petites entreprises moins de 10 salariés qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans. Bon, c'est une mesure qui avait déjà été prise, qui avait été abandonnée, qui revient. Rien de bien nouveau, ça ne concerne que les entreprises de moins de 10 salariés. Donc des entreprises qui, si elles ont besoin d'embaucher, vont embaucher. Elles ne vont pas embaucher plus parce qu'il y a cette mesure. Il y a peu de chance. Elles vont simplement bénéficier de cette exonération. Et ben, en parallèle, hein, puisqu'on parle d'exonération de charges patronales, refus, ce que demandaient les syndicats, puisqu'ils y étaient quand même allés avec quelques revendications, refus de revenir sur les exonérations de charges sur les heures supplémentaires, bien entendu. Hein. Donc on fait travailler moins, chômage partiel, etc. On exonère les charges patronales pour les petites entreprises qui embauchent des jeunes, mais les heures sup, la défiscalisation des heures sup, surtout en période de difficultés d'accès à l'emploi, c'est un frein supplémentaire à création d'emplois. Ça, on n'y touche pas. Reste deux mesures qui, pour moi, symbolisent quand même l'incohérence de la politique sociale, sociale du gouvernement. C'est c'est peut-être anecdotique, mais pour moi c'est vraiment un symbole. Quoi. On est face à une question, un problème. Bon, je parle sous le contrôle de Laurent, un problème vraiment structurel. Cette question de l'emploi, du chômage, et on nous donne vraiment des réponses, anecdotiques, ponctuelles, conjoncturelles. Alors. L'annonce, 1000. Alors, bonne nouvelle, il y aura 1000 chômeurs en moins, hein, puisque 1000 CDD, un contrat à durée déterminée, qui vont être recrutés à Pôle emploi. Là, c'est aussi. Moi, j'entends ça, je comprends pas. D'autant qu'il y a déjà eu un recrutement d'emploi, 1500 CDD en 2010, fin 2010. Ces contrats sont terminés courant 2011, ils n'ont pas été renouvelés. Donc, on peut aussi se poser la question humaine des personnes qui ont été embauchées pour travailler à Pôle emploi, et puis aussi de la relation avec les gens qui vont à Pôle emploi parce qu'ils cherchent du boulot. Donc on annonce 1000 CDD en plus. Alors peut-être qu'au lendemain des élections présidentielles, on mettra fin à leur contrat. Mais comme proposition qui ressort d'un sommet social sur l'emploi, pour moi, c'est complètement décalé. C'est très inquiétant. Et puis alors, l'autre annonce, sur laquelle aussi je m'arrêterai un petit peu, c'est la formation. Donc, relancer, il faut de la formation, sécurisation des parcours professionnels, donc formation professionnelle, etc. Donc là, on débloque un peu d'argent, rien d'extraordinaire, pour la formation professionnelle. À côté de ça, dans l'Académie de Lille, et ce sera un lien avec l'aspect mouvements sociaux là, qui vont avoir lieu dans les jours prochains, dans l'Académie de Lille, on supprime. Le gouvernement, c'est le résultat de la politique budgétaire en matière de postes du gouvernement, on va supprimer 500 postes d'enseignants en lycée professionnel, ce qu'on appelle des PLP, professeurs de lycée professionnel. Sur l'Académie de Lille, ils étaient 5000, ils sont 5000 cette année. Donc à la rentrée prochaine, 500 en moins, 10% en moins. On supprime 10% de postes dans l'enseignement professionnel de l'éducation nationale en formation, pour la formation initiale. De l'autre côté, sommet de l'emploi, il faut développer la formation professionnelle, il faut renforcer, il faut mettre de l'argent. Les gens ne trouvent pas de boulot parce qu'ils n'ont pas la bonne formation professionnelle. Donc ça, c'est aussi assez scandaleux. Alors, l'argument de l'administration, on est dans les chiffres, c'est clair. Il y a moins 5000 élèves l'an prochain dans les lycées professionnels. C'est l'effet de la réforme du bac pro professionnel qui passe de 4 ans, d'une durée de 4 ans de préparation à 3 ans. Donc on arrive, la réforme est mise en place, donc il y a une génération d'élèves en moins. Donc voilà, donc 5000 élèves en moins, on supprime 500 postes. Mais en supprimant 500 postes, on ne répond pas simplement à une logique de chiffres. On affaiblit un enseignement professionnel, des établissements, une force quand même dans les lycées professionnels qui accueillent souvent les élèves en difficulté, justement des élèves qui sont pendant des parcours de réussite scolaire. Comme on imagine que tous les élèves puissent réussir, il ne faut pas préparer des bacs, il ne faut pas faire des études générales, ce sont des jeunes qui ont envie d'apprendre des métiers, etc. Mais dans les lycées professionnels, ils ont la possibilité de suivre un enseignement général. Ils apprennent un métier, mais ils apprennent aussi, enfin ils continuent à se former en culture générale, etc. Et donc ça, j'ai l'impression que ça gêne énormément, hein, le gouvernement qui préfère mettre le paquet sur l'apprentissage. Donc un contrat de formation d'apprenti, un contrat de travail chez un employeur, la formation sur le tas, etc. Sachant, entre parenthèses, que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Et donc pour entrer en contrat d'apprentissage, il faut trouver un employeur. Et donc en ce moment, c'est pareil. Les jeunes ont du mal à trouver un employeur. Donc il y avait vraiment un outil pour la formation professionnelle qui existe, et on le rabote, au lieu de dire, bah tiens, effectivement, il y a peut-être un peu moins d'élèves, mais on va garder les postes, on va garder les moyens pour le développer, hein, parce que bah, on a besoin d'une formation professionnelle forte, et puis ça peut répondre à cet engagement au niveau du sommet social. Donc voilà, donc le résultat, quelque part, je suppose que ce que vous en penserez, c'est que, encore une fois, ben on ne pose pas la question sociale du travail, hein, de l'emploi, bien entendu. Alors si elle se pose, un jour on en parlait au téléphone hier, il y a une enquête qui a été menée, un sondage qui a été réalisé par Radio France, hein, sur comment les Français voient le travail, c'est ça, hein, Jean ?
Plus exactement, comment les auditeurs de Radio France voient leur travail, ou l'emploi, quoi. Enfin, voient le travail.
Oui, on reparle de travail, parce qu'il y a un moment, hormis Arlette qui n'est plus là, mais bon, successeuse. elle utilise toujours travailleuse. Mais sinon, bon, c'est vrai, on parle pas de travail. On parle plus de métier non plus. On parle d'emploi. Hein, c'est l'emploi. Donc cette question sociale du travail, de la place du travail dans la société, les relations sociales par rapport aux enjeux économiques, etc. Elle est pas vraiment posée en tant que telle. Et donc des réflexions autour de eh bien mieux distribuer l'offre, etc. Quelle relation, enfin quel épanouissement par le travail, etc. C'est complètement évacué. Le travail, c'est un emploi, c'est ce qui permet de vivre. Et puis bon, bah, à chacun de se démerder pour trouver un emploi, quel que soit l'emploi. Alors si on a été bon à l'école, si on a suivi les bonnes formations, eh bien on aura accès à des emplois gratifiants. Et puis les autres, bah, tant pis pour eux. Et quelque part, c'est ça, bah, qu'ils acceptent ce qui se présente, de la précarité, des petits contrats, des périodes de chômage, un contrat par-ci, de la flexibilité. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu mon regard sur le sommet social. Alors, il y a un appel qui avait été lancé le 18 par la CGT, hein, pour une mobilisation avec des appels ponctuels à la grève, à manifestation, mais il n'y a que la CGT, hein, qui y appelait. Les autres syndicats n'étaient pas d'accord. Les syndicats qui n'étaient pas invités au sommet avaient proposé quelque chose de plus dur, justement un boycott, de cette mascarade, et puis avec une action interprofessionnelle forte. Mais bon, ceux qui y participaient ont refusé. On est toujours aussi dans un contexte syndical où il y a des dissensions, hein, en termes de stratégie. Il y a eu quelques actions, je ne sais pas, vous avez, alors sur Arras, je ne sais pas, il y a eu des occupations, quelques occupations de Pôle emploi.
À cette occasion-là, remanifestation des mouvements de chômeurs.
Ouais,
c'est-à-dire sur un certain nombre d'endroits, les organisations de chômeurs ou de nouveaux collectifs de chômeurs se sont formés et ont déclenché quelques actions, effectivement.
Voilà, alors pour conclure, il doit y avoir une nouvelle rencontre intersyndicale nationale, interprofessionnelle, pour donner des suites à ce sommet social pour l'emploi. Mais je n'ai pas parlé de la TVA sociale, peut-être Laurent t'en dira un mot. En tout cas, dans certains secteurs, bon, c'est simple, dans certains secteurs, il y a quand même des mobilisations à venir. Bon, j'ai évoqué la question de l'éducation nationale, donc il y a une journée de mobilisation nationale le 31, donc c'est mardi 31, mardi prochain. Une journée intersyndicale nationale qui au départ était une journée d'appel pour dénoncer les nouvelles dispositions concernant l'évaluation des enseignants pour faire suite à une journée qui avait eu lieu en décembre. Mais finalement, bon, cette journée va s'inscrire dans la dénonciation de la politique budgétaire, des suppressions de postes. Hein, donc, bon, j'ai donné le chiffre dans l'académie pour les lycées professionnels. Ce sont eux qui sont essentiellement touchés, mais il y a des suppressions de postes dans les lycées. Il y aura des suppressions d'écoles, des fermetures de classes dans certaines écoles, etc. Donc ça, c'est le 31 avec une manifestation régionale à Lille, hein, l'après-midi, comme d'habitude. Il y a aussi une journée de mobilisation le 2 février. Donc là, c'est la Direction Générale des Finances Publiques, les impôts. Entre parenthèses, il y a plusieurs organisations syndicales là, des impôts qui font un travail très intéressant sur la politique fiscale, justement sur une analyse de la politique fiscale, de son évolution, et pour faire le lien justement avec ces problèmes d'endettement. Toujours la même question, à régler le problème de la dette, est-ce que il faut dépenser moins ou est-ce qu'il faut récupérer plus d'argent, hein. Et quand on analyse sur quand même ces 30 dernières années la politique fiscale, on s'aperçoit que les recettes ont quand même nettement diminué. Oui.
المحقور اللي ما دور سابق
Révolution, c'était Idir et Gnawa Diffusion. Magazine Tumulte sur Radio PFM sur le 99.9, libre et sans pub. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille-1, Guy, le syndicaliste, et Philippe Ledoussal, philosophe. Et pour la transition, on va dire que le disque que l'on vient d'écouter s'intitule Identité, donc l'album Identité de Idir. Et Philippe, tu vas nous parler de ce mot identité, de ce concept, de cette notion.
Alors, juste
avec la ruche philosophique.
Bon, pour commencer, tu m'as annoncé philosophe. Bon, professeur de philosophie, c'est déjà pas mal.
Il dit n'importe quoi ce soir.
Bon, oui, sur l'identité, cette notion d'identité, bah, le point de départ, évidemment, c'était notamment tout ce... Bon, ça date un peu maintenant, mais tout ce débat qui avait été lancé sur l'identité nationale. Et on va dire, en gros, tout ce qui joue autour de ces réflexes ou de ces politiques identitaires... autour de l'idée de retour à l'identité, donc voilà, un retour à l'identité nationale ou d'une identité nationale qui serait en danger. Alors ça peut prendre même les formes, je sais pas, par exemple des groupes d'extrême droite comme les identitaires là qui jouent sur ces questions là avec leurs fameux apéritifs saucisson pinard, enfin tous ces trucs là quoi. Bon, déjà première chose quand même, c'est que pour revenir sur cette notion d'identité nationale, lancer un débat sur l'identité nationale, c'est quelque chose d'un peu sidérant, parce que enfin, c'est quand même des termes qui sont d'une complexité très importante, quoi. C'est-à-dire que la nation et la question de l'identité, bon, la question de l'identité, par exemple, je ne sais pas, en philosophie, on va en parler rapidement, mais c'est quand même quelque chose dont on parle depuis les Grecs. Et quant à la nation, bon, il y a au moins deux siècles de débats sérieux, compliqués, etc. Donc, bon. On voit bien qu'on était bien là dans des formes démagogiques, quoi, et qu'évidemment, c'est ça qui est en jeu. Alors, si on en revient, bon, pour la nation, on va pas, peut-être pas parler de la nation aujourd'hui directement, mais sur la notion d'identité, déjà, la première chose quand même qu'il faut dire, c'est que, évidemment, c'est une notion, pour la philosophie, par exemple, c'est une notion centrale, parce que identifier... penser, c'est un des actes fondateurs de la pensée, d'identifier, c'est-à-dire reconnaître un objet, le distinguer, le singulariser, etc. Bon. Évidemment, dès le départ, identité et différence, c'est lié, parce que pour distinguer un objet, pour l'identifier, il faut aussi que je le distingue de ce qui n'est pas d'autre chose, de ce qui n'est pas lui. Donc ça veut dire que si on regarde les sens du terme identité, déjà identité, hein, ça vient du latin qui est le même, hein, l'idem, idem, le même, bon. Et il y a plusieurs éléments, bon, déjà... identique, ça va être, par exemple, le caractère des choses qui sont de plusieurs êtres qui peuvent être identiques. On prend un livre, par exemple. Bon, ben, il y a plusieurs exemplaires d'un livre. C'est certes, c'est le même livre, hein, puisque le contenu est le même, etc. Bon.
Parfois, c'est pas le même auteur.
Alors, justement, parfois, c'est pas le même auteur. Je sais pas. Bon. Mais justement, oui, par exemple, cette question du... on peut aussi avoir l'identité, par exemple, si j'ai plusieurs noms, hein, des noms d'auteurs, par exemple, bah, je serai le même sous plusieurs identités, mais en réalité, c'est la même identité. Et puis alors, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que l'identité, ça peut aussi désigner ce qui se maintient et qui reste le même à travers les changements. Bon, alors ça, par exemple, l'identité personnelle, notre identité à nous, à moi, à vous, etc., c'est le fait que je reste le même, même si ça change. Bon. Et évidemment, c'est ça peut-être le point le plus important pour nous, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, cette identité-là, finalement, elle renvoie à quelque chose d'assez insaisissable, parce que, évidemment, je ne suis pas du tout le même que celui que j'étais quand j'avais 5 ans. Enfin, je pense que ça a quand même pas mal changé. Et donc, à la limite, on voit bien qu'ici, l'identité, c'est un devenir. C'est plus quelque chose qui se maintient de manière identique au sens de l'identité de la chose qui reste toujours la même, etc. Je deviens un autre, hein, mais en même temps, c'est en devenant un autre que je suis moi, que je reste le même, que je me cherche, que je deviens moi-même, etc. Bon. Et ça veut dire qu'il faut faire des distinctions entre plusieurs éléments, entre deux choses. Il y a l'identité comme permanence, hein, c'est-à-dire que la chose qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire si elle change totalement, elle n'est plus la même. Et puis il y a une identité qui a un rapport à soi, qui est le fait que, hein, ce qu'on dira que c'est, le terme technique, ce serait l'ipséité, le rapport à soi, hein, c'est-à-dire que finalement, je reste le même en devenant autre, hein, ou je deviens autre tout en restant le même, etc. Donc c'est le rapport à soi, et c'est pas la permanence de quelque chose qui serait fixé, qui fixe à ce moment-là, ou qui donne l'identité. Évidemment, ça pour la personne, pour nous, en tant que personne, ça renvoie au fait qu'on a une mémoire et qu'on a une conscience. Donc on se rapporte à soi, et puis qu'on peut se désigner soi-même aussi. On peut dire « j'ai été comme ça », etc. Bon, alors si on en revient maintenant justement à cette question de... si on garde cette distinction en tête, là, sur la question de l'identité nationale, ou de toute cette idée de retrouver ou de protéger une espèce d'identité qui devrait rester toujours la même, on voit qu'il y a une confusion en fait entre les deux notions. C'est-à-dire que on essaye de nous faire passer comme une identité de la permanence, quelque chose qui est une identité du rapport à soi. Hein. L'identité nationale, ce n'est pas le fait qu'il y aurait quelque chose qui serait exactement le même et qui resterait le même tout le temps à travers le temps, au sens de l'identité de la permanence. Non, l'identité nationale, c'est un rapport à soi, par exemple, si tant est qu'elle existe d'ailleurs, cette notion. Bon. Mais en tout cas, il faut clairement distinguer... ces deux choses. Ça veut dire que c'est quelque chose que les gens peuvent éprouver, ressentir, raconter, mais qui sera aussi différent selon les différentes personnes, etc. Et c'est un mouvement. Et c'est une manière aussi de... C'est quelque chose qui se construit, mais en devenant autre et en étant autre, quoi. Bon, c'est évident que, de la même façon que j'étais pas le même que quand j'avais 5 ans, la France d'aujourd'hui, c'est pas la France du Moyen-Âge, quoi. Hein, ça n'a rien à voir, et même si on peut garder une désignation, etc. Donc ça, c'est la première chose, quoi.
Jeanne d'Arc, c'est toujours Jeanne d'Arc, quand même, non ?
Je sais pas. C'est pas sûr. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que, par exemple, si je regarde ma carte d'identité, bon, mes papiers d'identité, hein, bon, l'identité, là encore, quoi, il faut faire des distinctions, parce que l'identité pure, en fait, c'est rien. C'est-à-dire, l'identité pure, c'est, moi, je peux dire, moi, je suis moi. Voilà. Ça, c'est l'identité. Bon. Si on la pense juste comme ça toute seule, bah c'est le vide. Hein. Bon, je peux juste dire que bon, A et A, quoi. En revanche, ce qui va me distinguer, ce sont mes appartenances. Donc par exemple, ce sera le fait que, je sais pas, j'appartiens au groupe des gens qui font plus d'1m80, j'appartiens au groupe des gens qui ont les yeux de telle couleur, j'appartiens au groupe des gens qui parlent français, etc., etc., etc. Bon, c'est-à-dire que, en réalité, ce qui compte et ce qui construit un individu, ce sont les appartenances qu'il a. Et ces appartenances, elles sont toujours multiples, etc. Et ce qui est vrai de la même façon, hein, si je me sens appartenir à un groupe, à une nation, ça ne veut pas dire que je ne me sente pas en même temps appartenir à une entité internationale, à quelque chose qui dépasse, à des choses qui à un groupe local, etc., etc. Bon, tout ça n'est pas exclusif, loin de là. Et justement, c'est là, il me semble, le problème de toutes ces politiques identitaires, nationalistes, qui essayent de nous réduire, etc. C'est que du coup on va confondre les deux, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple, bah, je suis français, ça veut dire j'aurai une espèce d'essence française en moi que je porterai, etc. Ce serait plus une simple appartenance à un groupe, ça deviendrait un truc qui serait inscrit en moi. Bon, et on voit bien que là c'est là que toute la question du racisme, de la xénophobie se pose, parce que si je dis à quelqu'un, par exemple, tu es juif, ou je sais pas, tu es juif, tu es noir, tu es ceci, etc., ça veut dire que finalement, je transforme une simple appartenance et j'en fais une seule dénomination, une identité fixe que je l'impose à cette personne, hein, et que je vais à ce moment-là, évidemment, je vais la transformer, la chosifier, etc. Bon. Donc le racisme se nourrit de ça. Et dernier point, c'est que, évidemment, comme je disais, si l'identité, c'est penser purement, c'est le vide, ça veut dire que pour me définir, je me définis toujours par rapport à un autre. Bon, c'est-à-dire que pour être moi-même, bah, ça veut dire que je suis pas toi, je suis moi, etc. Bon, je me définis toujours par rapport à un autre, et même pour moi-même. Je ne suis plus celui que j'étais, je ne veux pas être comme ça, etc. Bon. Et donc, ça veut dire que on ne peut pas avoir une espèce d'identité, on peut rêver comme ça d'une espèce d'identité simple, etc. Mais ce rêve est profondément, profondément dangereux, malsain, surtout quand il est manipulé. Parce que, en réalité, je ne sais pas. Il y avait un philosophe Ricoeur qui parlait d'idée, voilà, soi-même, il faut faire l'expérience de soi-même comme un autre. Bon. C'est-à-dire que finalement, je suis bien sûr toujours, il y a une étrangeté en moi, de la même façon que pour me construire, je me rapporte aux autres, à mes propres, aux différents, etc. Donc il n'y a, pas une, comment, une, quelque chose qui serait à moi, une identité qui serait fixe et qui serait jamais étranger, étrangère à elle-même, sans différence, etc. Bon, et de la même façon, mais de manière, on va dire, pathologique, etc., bah, au fond, on peut dire que le xénophobe ou le raciste, il passe son temps à se référer à l'autre, quoi. Il passe son temps à construire son identité en expulsant tout ce qui n'est pas conforme à ce à quoi il voudrait s'identifier. Bon. Et en ce sens, il est constamment, lui-même, son identité, elle se construit constamment dans un rapport à l'autre, mais qui est là, pour le coup, un rapport de négation, de destruction, etc. Hein. Et on voit bien que c'est là-dessus que ça joue. D'ailleurs, c'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui viserait une espèce d'identité pure, etc., il ne peut le faire qu'en passant son temps à expulser ce qui est étranger. Il est obsédé par l'autre. Hein. Il y avait, je ne sais plus où j'entendais ça, mais quelqu'un qui disait que la xénophobie, donc la, c'était pas tellement la la peur, la phobie de l'étranger, mais plutôt la peur d'être étranger à soi-même, quoi. Hein, et qu'on était constamment obligé de la... Voilà. Voilà, et juste pour finir sur cette question, quand on demandait à Kafka s'il se sentait juif, il disait déjà « j'ai du mal à me sentir moi-même voilà. ».
Une réaction sur cet éclairage, Laurent ?
Ah bah, c'est très difficile comme ça en ping-pong. Non, c'est très éclairant. Enfin, je trouve ça tout à fait absolument passionnant. Et ce qui, enfin, ce qui m'a paru plus évident, mais pas parce que tu dis des banalités, parce que tu l'as bien dit, c'est que notre identité se construit au carrefour d'une pluralité d'affiliations, d'appartenance à des groupes, et que effectivement que s'il n'y avait pas toutes ces intersections, on se demande de quoi on serait fait, quoi. Enfin, et en même temps, effectivement, on a du mal à s'avouer que notre identité est faite de l'intersection de ces multiples affiliations, parce que dans la modernité, ces multiples affiliations, c'est aussi ce qui sans doute éclate un peu notre moi, quoi. Hein. Il y a des moments, il faut pas trop s'étonner qu'une une société recherche aussi son identité, parce que pour les individus, il y a un moment donné, on se demande où c'est qu'on a posé son moi, quoi. Enfin, parce que on en a dans tous les coins, et ces affiliations parfois sont elles-mêmes faibles, sont des liens relativement faibles, enfin avec parfois peu d'implication psychologique, une implication qui peut être routinière, ou une implication de travailleur, ou parfois les membres de certaines associations sont de simples cotisants, ou, etc. Donc du coup, je pense qu'on a quand même globalement dans la modernité un vrai problème avec notre identité, et les nations aussi, quoi.
Une réaction, Guy ?
Alors que la nation est une idée moderne, bon, il me semble. Enfin,
moi, j'attendais les identités remarquables, mais bon.
Mais c'est toi, Guy.
Philippe,
oui, mais je pense que
un
ça,
retour.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, pour revenir à ce qu'il y a d'être dit, là, c'est-à-dire que c'est plutôt... Enfin, il me semble que, évidemment, la question notamment du retour des questions identitaires ou des politiques identitaires, elle se pose aussi en période de désaffiliation. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que, justement, quand il y a... bon, voilà, la crise sociale, on perd un certain nombre de positions dans le travail, le métier, etc. Et du coup, bon, finalement, on se retrouve à mesurer aussi la fragilité des affiliations qu'on pouvait avoir. Et à ce moment-là, il faut bien essayer de retrouver une stabilité, quoi. Il faut bien essayer de retrouver quelque chose. Et c'est là que s'engouffrent toutes les manipulations identitaires, quoi. Mais effectivement, ça renvoie aussi au fait que nos sociétés produisent une fragilité des appartenances, des affiliations, qu'elles soient dans le travail, de manière... dans la vie, on va dire, je sais pas moi, privée, familiale, etc. Il y a une espèce de remise à plat de toutes les affiliations un peu permanentes, quoi.
Okay.
Ouais, c'était anecdotique l'identité remarquable, mais pas que, parce que bon, j'ai peut-être pas été un bon élève, j'ai pas bien écouté, mais j'ai pas compris justement pourquoi il y a une origine commune. Deux sens d'identité, enfin identité peut être entendue dans deux sens, quoi. Hein, donc l'identité, tout ce que tu as développé, mais aussi l'identité est la même chose, quoi. Et donc pourquoi le même mot, d'où ça vient, et ça j'ai...
Parce que dans tous ces cas-là, il y a bien l'idée que c'est la même chose. Le seul problème, c'est que c'est une façon d'être, c'est une façon tout à fait différente d'être la même. Je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante.
Tu peux les répéter, mais... parce que c'était au début. Oui, non, enfin, ces deux modalités. Donc, deux modalités d'être le même, mais tu peux rappeler la distinction.
Oui, c'est-à-dire, c'est soit le fait que ce soit la permanence d'une chose, par exemple, c'est la même chose, ça, ah. Et ça reste la même chose, ou la permanence d'un rapport. C'est-à-dire que je reste le même dans le changement. C'est-à-dire une chose qui serait une identité permanente, si elle change complètement, elle n'est plus la même. Moi, si je peux changer complètement, d'une certaine façon, enfin, presque complètement, je reste quand même le même.
C'est l'identité remarquable. C'est quoi déjà, Jean ? Je me souviens plus. Enfin, je me souviens de l'appellation.
C'est une égalité qui est vraie, quelle que soit la valeur des variables. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, quoi, hein, une identité remarquable. Alors, elle est remarquable quand elle est particulièrement utile dans des processus de calcul. Bon, A plus B au carré, A2 plus 2AB plus B2.
Donc, c'est ça, si alors.
Voilà. Alors, c'est bon, ça fait quand même. Dans ce que tu dis, il y a pas mal d'écho aux mathématiques, hein, égalité, identité. Et ça avait été bien analysé par Engels dans la dialectique de la nature. Ça, A égale A, et en même temps, A est différent de A. Et ça m'a fait penser à cette égalité 1 plus 2 égale 3, par exemple. Comment on le voit, ça ? Il y a deux manières de le voir. Il y a une manière de le voir sous l'angle de l'identité. 1 plus 2, c'est la même chose que 3. Et puis, il y a une vision dynamique, c'est 1 ajouté à 2 donne. Souvent, on donne 3. Et là, il y a un mouvement. C'est une opération et qui a un résultat. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui seraient...
Et le triple A égale le triple A aussi. Alors,
oui.
Eh ben on va arrêter là-dessus. Hein,
ouais, on était loin quand même du sommet social. Je pensais qu'il y aurait quelques échanges, mais on n'a pas le temps, je crois. C'est ça. Voilà.
Les musiques sont un peu... Ouais, Guy, là, tu vois. Toi, Guy, là, t'es à l'antenne. Hein, mon... Guy, toi, t'es à l'antenne, là. Hein. Alors, oui, on est à l'antenne, mais les musiques ont effectivement un petit peu de difficulté à démarrer aujourd'hui. C'est ainsi que va se terminer ce tumulte un peu dérapé. Non sans vous annoncer un rendez-vous que l'on vous a déjà indiqué la semaine dernière, un café citoyen le vendredi 27 janvier à 19h30 au Café Lef d'Arras, Place des Héros, sur le thème « Les printemps arabes un an après ». Avec Jean-François Bayard, politologue, directeur de recherche au CNRS, Hélène Flaude, députée européenne, Yahya Hassam, militant pour la démocratie et la justice sociale en Algérie, et Oussama Elmgouz et Ismaël Sakal, deux étudiants libyens qui étaient d'ailleurs dans nos locaux de PFM la semaine dernière dans Tumulte. C'est organisé par Europe Écologie et Verts, donc vendredi 27 janvier. Ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut!